Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie, qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie, et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder cette identité savoyarde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un explorateur de l'Indochine. C'est Étienne Émonier. Parfois, un simple geste peut changer une vie. Son frère aîné ayant tiré un mauvais numéro, Étienne Émonier s'engage à sa place dans l'armée française en 1862. Né 18 ans plus tôt au Châtelard, commune faisant alors partie du duché de Savoie, ce fils de laboureur travaille d'arrache-pied, gravit tous les échelons et réussit le concours d'entrée à l'école spéciale impériale militaire de Saint-Cyr. À sa sortie, en 1869, il est nommé sous-lieutenant d'infanterie, de marine, et débarque quelques mois plus tard à Saigon, capitale de la Cochinchine, qui possède le statut de colonie depuis 4 ans. Le jeune officier éprouve un véritable coup de foudre pour ce pays exotique et pour ses habitants dont il étudie la langue, les coutumes et les traditions. Ses chefs, remarquant son appétence pour la culture locale, il est détaché aux affaires indigènes, ce qui lui permet de visiter le sud du Vietnam, d'en côtoyer les populations, dont une minorité de Khmer, qui attire plus particulièrement son attention, et il devient bientôt l'adjoint du représentant de la France au protectorat du Cambodge, Jean Mourat, spécialiste de la région, lui aussi attiré par l'histoire de ses peuples, entouré de mystères. Promu lieutenant en 1874, le Savoyard est chargé de vérifier la délimitation des frontières cambodgiennes, puis rentre en France pour 2 mois de congé. À son retour en Asie, il se lance dans sa première exploration du Cambodge. Remonte en barque une rivière jusqu'au Télé Sap, grand lac d'eau douce, où abondent poissons, cormorans, tortues, serpents, crocodiles, guettant les singes qui jouent dans les arbres des forêts inondées. Au-delà des villes flottantes, des rizières, la contrée est semée de ruines étouffées par la végétation. N'ayant aucune formation en architecture ni en archéologie, le jeune officier a lu avec intérêt des livres et des articles écrits par Henri Mouhot, naturaliste qui a exploré et fait redécouvrir aux Occidentaux le royaume du Siam, du Laos et du Cambodge. Cependant, la fièvre jaune et le choléra font des ravages. Les sangsues se glissent dans les bottes, sous les vêtements, et la progression en charrette, à buffle, à pied, à cheval, à dos d'éléphant, avec une centaine de porteurs autochtones, dans les zones douchées par la mousson, s'avère plus difficile que prévu. Jean Mourat, parti à la retraite, le capitaine Émonier lui succède et peut dès lors organiser ses travaux comme il l'entend. Fort de ses expériences précédentes et de sa connaissance de la langue cambodgienne, il décide de concentrer son action sur Angkor, sanctuaire bouddhiste, ancienne capitale des Khmer. Motivé comme jamais, attiré par les civilisations anciennes, il reprend donc de plus belle. Angkor Wat le fascine par sa démesure et par son harmonie malgré quelques effondrements, des racines tentaculaires, des feuillages envahissants. Le site lui paraît si imposant qu'il se demande bien, lui aussi, qui a pu concevoir et surtout réaliser une œuvre aussi gigantesque. De larges fossés, peuplés de lotus, une chaussée pavée, des terrasses, plusieurs galeries couvertes, de bas-reliefs, de raides escaliers, 5 hautes tours élégantes et majestueuses témoignent d'un savoir-faire étonnant. Au soleil couchant, le tableau est incomparable. Se qualifiant lui-même de défricheur et de déchiffreur de stèles, Étienne Émonier organise un réseau d'informateurs locaux qui vont de village en village en quête de bons travaux. Avec une équipe réduite, il s'active à relever les inscriptions sur les monuments en grès, à les traduire, ce qui lui permet la datation des événements qu'elle relate, qu'il s'agisse de couronnement d'un roi, de scènes de combat ou de chasse. À cette fin, il innove sur le plan technique en utilisant un procédé de moulage inédit. Malgré les aléas climatiques, les empreintes se conservent ainsi dans de meilleures conditions. Le but, pour ce méritocrate, est de transmettre les informations à des archéologues et à des historiens. D'ailleurs, des indianistes se félicitent quand il rejoint la France en 1881 avec toute une série d'estampes d'inscription sanscrite. Nul doute, avec ce genre d'action, l'armée française ambitionne de donner un sens à la colonisation. Les spécialistes savent à présent que l'Empire Khmer a dominé la péninsule indochinoise du IXe au XIIIe siècle et que la plupart de leurs temples ont été construits à l'époque où l'on élevait en Europe des cathédrales. Investi d'une mission officielle, lui donnant cette fois-ci carte blanche pour continuer ses explorations, le broussard Émonier repart début 1882 et débarque un mois plus tard sous la chaleur à Saïgon. Aussitôt, ses tournées reprennent au Cambodge. Il passe plus de 3 mois à Angkor, sous le sourire paisible des danseuses en pierre. Des apsaras explorent les environs, peuplés de sanctuaires, de géants à visage hostile, où amènent et récoltent des centaines d'inscriptions en vieux khmer. La moisson est bonne, mais ils constatent les horreurs du pillage, avec des statues brisées ou sans tête enfuies dans les herbes. Après des allers-retours à Saïgon, lui offrant un repos mérité, Étienne Émonier décide de se tourner vers la partie centrale de l'Indochine, où le royaume de Champa a laissé de multiples traces. Temple de briques, sanctuaire hindouiste. Il entend procéder, comme au Cambodge, collecter des informations sur les chams, dont il ne connaît pas grand-chose. Mais bientôt, des troubles éclatent. La mission est suspendue. Malgré tout, les chercheurs travaillant en France font leur miel des notes, rapports, estampes, que l'officier leur fait parvenir. À la lecture des documents épigraphes, il reconstitue peu à peu l'histoire de cette population méconnue. Un explorateur n'en restant pas moins un homme, notre intrépide Savoyard vit un temps avec une princesse cham dont il a 3 enfants. De retour à Paris, il est nommé délégué de l'ANAM Tonkin à l'exposition universelle en 1889, première véritable exposition coloniale de l'histoire de France. Directeur de la toute nouvelle école coloniale, il peaufine la rédaction d'un livre en 3 tomes sur le Cambodge, faisant le point sur à peu près tout ce que l'on sait alors de la civilisation khmer. Le chef de bataillon Émonier prend sa retraite en 1905, mais il continue d'entretenir des liens étroits avec le musée Guimet. Il écrit un dictionnaire cambodgien-français avant de s'éteindre à Paris en 1929. Certains spécialistes reproche à cet homme de terrain son manque de rigueur, vaine querelle. Par son travail acharné, sa motivation, sans faille, Étienne Émonier a largement contribué à faire connaître la civilisation khmer et la culture cham. À ce titre, il mérite admiration et respect. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, ces savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et surtout, à une prochaine fois.